Oh boy! 418-971-1021. Qu'est-ce que la madame vient de dire? David Chabot qui est en studio avec nous autres. Salut mon pote!
Salut, man, ça va?
Pensez qu'à un homme comme
Salut,
toi...
Salut, man, ça va.
Rendu...
On est rendu là.
Rendu où tu es dans ta carrière, je pensais qu'à un homme comme toi était au golf des journées comme ça.
Ouais.
C'est non. Ce qui se passe, t'as mal négocié tes contrats avec tes boss.
Sincèrement, je vais beaucoup au golf par rapport à mon ratio au bureau.
Ouais.
Mais l'hiver, je suis beaucoup au bureau puis très peu au golf.
Pour ceux qui jouent pas, là, ben là, j'espère que t'es pas tout le temps au golf. En même temps, le virtuel prend beaucoup d'assaut,
ouais,
là, les passionnés de golf.
Le golf, c'est sectaire.
Est-ce que vraiment, pour ceux qui jouent pas, c'est un plus de savoir jouer au golf quand t'es en affaires? Est-ce que vraiment vous discutez d'affaires ou c'est un beau stéréotype qu'on peut continuer d'entretenir, que c'est du blabla?
Honnêtement, c'est parce que t'es 4h, 4h30 avec la même personne ou les mêmes personnes.
Ouais.
Puis là, oui, OK, il y a le golf qui est important, mais il y a aussi le fait que t'as des discussions, tu développes ton team bonding, mettons, ou en tout cas, ta relation d'affaires avec des gens. Fait que oui, c'est quand même productif. Est-ce que c'est la seule façon ou la meilleure? Pas nécessairement. Puis est-ce que t'as besoin d'être bon? Tu sais, c'est sûr que si tu topes la balle 14 fois dans le même fairway,
ouais,
t'as l'air un peu coco, tu sais.
Ça que... définit ta personnalité d'affaires, si ben, tu t'envoies la balle dans le champ.
Ben, il y a un certain swagger quand tu joues au golf.
Un swagger.
Ouais, c'est ça. T'aimes pas beaucoup mon vocabulaire.
Non, non, mais je te trouve très hop, hip, hop.
Je te dis, moi, je la connais un peu quand t'as fait ça à Niaise.
À Niaise. Mais c'est vrai que je suis peut-être hop, hop, hip, hop. Je sais pas comment tu dis ça.
Mais j'ai vu le golf virtuel. Là. Moi, je vais me faire couper les cheveux à la pyramide à Sainte-Foy. Là.
Okay.
Il y a un golf virtuel en bas. Là. Sérieux, c'est plein, même le jour. Là.
Oh, ouais.
L'hiver.
Non, mais c'est un beau produit, pareil, parce que tu peux continuer à frapper des balles, puis tu sais, frapper dans un filet, je l'ai fait dans le sport études quand j'étais jeune. Là. Ça fait son temps. Tu sais, au moins, là, t'as quelque chose à viser, t'as un jeu, t'as quelque chose qui se passe, mais c'est vraiment pas comme aller à l'extérieur, par exemple.
Non, c'est ça. C'est ça. Puis profiter du paysage. Aujourd'hui, aller jouer au golf, ça doit être très, très, très agréable. On vous salue pour ceux qui ont réussi à jouer l'heure 18 aujourd'hui. Hey, en fin de semaine, il s'est passé quelque chose d'incroyable. L'Ukraine qui a organisé une opération, en fait, qui a réalisé une opération qui était planifiée depuis plusieurs mois, je pense plus d'un an, où on a décidé de cacher des drones dans des conteneurs. Puis à distance, le toit de ces conteneurs-là se sont ouverts. Et là, les fameux drones, il y avait 36 drones par conteneur, ont sorti du conteneur puis ont décidé d'aller atteindre les cibles. David, je veux dire, la Russie est reconnue comme étant une force mondiale, mais ils se sont fait avoir comme des enfants d'école.
Ah, ben ça démontre, mettons, que la guerre conventionnelle avec les fronts là, très statiques puis les tanks qui tirent dessus, c'est fini ce temps-là. T'sais.
C'était pas la première fois. On a déjà eu un drone dans Moscou puis on avait essayé d'étouffer l'affaire parce que ça nous diminuait là, en tant que Russes.
Mais à ce moment-là, ça partait de l'Ukraine.
Mm-hmm.
Là, maintenant, comme tu disais, c'est comme un genre de cheval de Troie.
Ouais.
Parce que, tu sais, il y a encore des échanges interfrontaliers avec la Russie, tu sais, pas avec l'Ukraine, évidemment, mais il y a d'autres pays limitrophes qui vont faire des échanges économiques. Fait qu'il y en a des camions qui se promènent avec des containers et tout. Là, ils se sont rendus jusqu'à 4700 km de Kiev. Là. C'est loin, là, pour aller déposer le fameux container. Puis là, quand ils ont ouvert le toit, ils ont attaqué des bombardiers stratégiques qui sont irremplaçables.
Est-ce que c'est vrai qu'ils auraient presque détruit 35 à 40 % de la flotte russe?
Pas la flotte au complet, mais des bombardiers stratégiques. Parce que là, en tout cas, c'est de la quincaillerie, mais t'as des Tupolev 22 puis 95, un à hélice puis l'autre qui est à réacteur. Puis ça, c'est des bombardiers stratégiques qui permettent de traverser l'océan puis d'aller bombarder l'autre bord. Mais aussi, évidemment, l'Europe puis en Asie au besoin. Puis c'est des bombardiers très, très techniques qui est un peu vieillot quand même là, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais pour ceux qui connaissent un peu ça, aux États-Unis, il y a des bombardiers B2, là, les fameux triangles volants, là, les Doritos qui volent. Là. Ben ça se fait plus. Puis ça coûte 1 milliard chaque, mettons. Là. Ben c'est un peu l'équivalent de ça en Russie.
Puis on détruit pour combien de milliards?
Ben j'ai vu 2 milliards, puis j'ai vu 10 milliards. Bon, on va faire une moyenne entre les deux. Là.
La Russie dit 2, le reste dit 10.
Mettons 5-6.
Mais reste, ça fait un trou dans le budget pareil. Là,
ouais.
Ben, le bas de laine est un peu percé.
Ça se construit pas en 2 semaines non plus, ben, cette flotte-là. Là.
C'est le gros problème, parce que là, le beau Vlad, il s'est fait raccourcir les bras avec ça, parce que t'as plus la capacité. Puis il s'en servait en Ukraine, là, c'est pas juste pour faire du bombardement nucléaire. Là. Il s'en servait pour aller lancer des. Il appelle ça des glide missiles, là, des missiles qui flotte, I guess. Là, je sais pas comment tu dis ça en français. Mais des planeurs, des missiles planeurs, je pense. Fait que là, il lançait ça d'assez loin du front, mais ça te prend quand même une capacité parce que c'est pesant. Fait que là, il faut que tu l'amènes dans les airs, etc. Ils perdent une bonne partie de cette capacité-là, mais aussi, là, ils sont ses nerfs. Parce que là, où on va se faire attaquer en Russie? C'est quand la prochaine fois? C'est quoi le prochain truc stratégique? C'est-tu dans un port? C'est-tu des navires de la flotte, mettons, de l'Atlantique?
C'était-tu juste un test qui a bien fonctionné?
C'est ça. C'est pas la première fois que les Ukrainiens réalisent des coups de genre dans la mer Noire avec des drones marins. Ils avaient réussi à repousser une flotte russe. Là. Je veux dire, ces gens-là, on les considérait pas comme étant une armée incroyable, là, mais ils réalisent de belles choses.
Mais ils ont des alliés. Est-ce que Yann dit là, c'est super intéressant, est-ce que le Canada a aidé parce qu'ils ont entraîné? Est-ce que côté ressources que les États-Unis ont envoyées, ça a aidé jusqu'à un moment? Est-ce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont actuellement puisqu'ils nous démontrent en partie par l'aide internationale?
Oui, parce que l'armée ukrainienne, là, ça faisait pitié. Quand la Russie est rentrée avec des soldats pas identifiés en Crimée en 2014, ils ont vraiment mal paru, l'Ukraine, parce que c'était comme un pays post-soviétique, pas très structuré. Puis bon, puis là, tout le monde a fait comme « Wow, attends un peu, il y a une vraie menace russe là-dedans ». Donc là, l'OTAN, incluant le Canada, on a envoyé des forces spéciales puis des forces de formation pour structurer l'armée ukrainienne. Puis là, ils ont fait une grosse réforme de la structure du commandement, de comment ça se passe sur le terrain, du tactique, là, vraiment là, dans les opérations sur le terrain, jusqu'au stratégique en haut avec les généraux, pour moderniser l'armée ukrainienne. Puis là, il n'y avait pas la même capacité militaire quand la Russie est rentrée que la Russie, justement. Là, c'était pas un équivalent, mais en termes stratégiques, il était loin devant. Puis ce genre d'opération-là, c'est très, très typique des forces spéciales, par exemple, des pays de l'OTAN. Parce que là, tu réfléchis en dehors de la boîte, puis tu te dis, tu sais, où ça va faire mal, puis comment je vais me rendre. Alors que la Russie, c'est très linéaire. J'ai une troupe, je donne une commande, rentre dedans jusqu'à temps que ça pète.
C'est une guerre conventionnelle.
Oui, pour eux autres, oui.
Puis ça m'a fait penser à la stratégie. Est-ce que, je ne sais pas si ça a été confirmé, c'était les gens du Mossad qui voulaient détruire les gens du Hezbollah puis avaient fait exploser les Padgett.
Les Padgett, oui.
Tu sais, je veux dire, ce type de guerre-là, est-ce que ça existait avant puis on n'entendait pas parler?
Bien, là, c'est parce que c'est des guerres, tu sais, de grande ampleur. Là. Fait que c'est des grosses opérations qui font des gros dommages, mais des petites affaires de même, ça doit se passer assez souvent, puis on doit pas le savoir tout le temps, tu sais. Parce que c'est tout ça, là, l'aspect du secret, puis du confidentiel, puis là, tu sais, de la CIA, puis tout ça, tu sais, c'est un monde, là, de
parce que les Padgett du Mossad avaient tout explosé, ça avait tué et blessé énormément d'agents du Mossad. Puis le lendemain, ou le ouais, c'est exact, du Hezbollah, et le lendemain ou le surlendemain, il y a eu des funérailles. Puis il avait fait exploser, je pense que c'était cellulaire. C'était juste incroyable.
C'est comme sacré-moi patience. Là. J'enterre le beau-frère, le patao, ça me pète ses hanches, tu sais, voyons.
C'est ça. T'es porté à emprunter le cellulaire d'un autre après.
Ouais, mais c'est ça.
Tu me passerais-tu ton cellulaire?
Mais c'est pas drôle pareil, mais en même temps, c'est une stratégie de guerre.
Ouais. Là, qu'est-ce que ça va changer dans les relations entre Poutine et Zelensky? Est-ce qu'on va se rapprocher peut-être d'un terrain d'entente avec les 6, 7, 8 milliards de dégâts que l'Ukraine a fait à la Russie?
Ben là, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ah, Poutine va se tanner ». Ben, c'est sûr qu'il doit être tanné, là, mais il va se tanner comment? Parce que là, ses forces conventionnelles là, sont épuisées. Là. Il est rendu à drafter le fond du baril. Il n'y a plus vraiment de quincaillerie moderne qui fait la différence. Fait que là, c'est une guerre d'attrition là, en ce moment. Là. Ouais. Ça se bombarde sans arrêt juste pour avancer de 15 pieds, mettons. Fait qu'il n'y a pas de capacité de dire hey, « je vais faire une méga invasion, puis là, je vais faire le ménage. » Comme, mettons, Israël fait à Gaza. Là. C'est pas la même situation, mais il peut pas faire ça. Donc là, c'est quoi l'alternative? Ben, c'est l'arme nucléaire. Puis là, ben, moi, j'y crois pas, il ira jamais là, parce que c'est comme la doctrine du MAD là, qu'on a déjà parlé, là, la destruction mutuelle assurée. Donc, dès que tu utilises cette arme-là, c'est fini. Donc là, il reste quoi? Ben, il reste de négocier puis de fermer la trappe à tout le monde, parce que selon moi, là, c'est pas à cause qu'il s'est fait exploser 30% mettons, de sa force de bombardier que là, Poutine dit hey, là, il faut absolument que je négocie. Mais tu sais, c'est.
Au contraire.
C'est l'ajout, tu sais, c'est la taxation économique, si tu veux, sur son économie, là, ça tire du jus, là, cette guerre.
Son égo aussi, tu sais, il voudra pas que ça arrive 150 fois. Là.
Non, parce que dans les médias, j'imagine, dans les médias russes, j'imagine qu'on parle de ça, là, de la destruction des.
Pas certain.
Non.
Au contraire. Je te le dis, le côté presse, rappelle-toi, sur la grande place, il y avait un opposant puis qui essaie de raccorder avec des faits extérieurs puis se faisait arrêter. Là. C'est fascinant tout ce qui est presse du côté de la Russie parce que c'est réglementé par le gouvernement.
C'est clair que ça serait, parce qu'encore à ce jour, des gens qui partent du Canada, qui vont en Russie, et puis le contraire est aussi vrai, des Russes qui viennent ici.
Oui. Il y en a qui sont au courant.
Il y a des, ben oui, c'est clair et net que l'information se rend. Là, si ça ne se rend pas par les médias, nécessairement, ça va se rendre par le bouche à oreille. Là.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, sauf qu'il y a que l'information soit disponible et que les gens le croient.
Ouais.
Puis de ce que j'en comprends, évidemment, je ne suis pas là, mais tu sais, la population moyenne en Russie croit beaucoup le gouvernement encore.
S'il y en a qui craignaient pour la vie de Zelensky après l'entente avec la Russie, dites-vous que là, Zelensky va devoir se sauver très loin.
Oui, ça se peut qu'il n'ait pas besoin des tasses de thé du polonium, mettons, ou qu'il se tienne loin des cordes de porte. Là,
mais où est-ce que tu le places, Zelensky, pour pas qu'il soit accessible? Une fois que tout va être réglé, là, mettons, là, entre Poutine et Zelensky, où est-ce que tu le places?
Écoute, la meilleure protection, c'est l'anonymat. Là. Fait que, tu sais, s'il reste président, mais là, il a tout son organe de protection, mais il peut pas devenir civil sans protection puis être encore visible. Fait que là, il faut que tu disparaisses, là. Pour tout le temps, là. Mais je sais pas s'il va faire ça. Il va sûrement rester en politique, je peux pas croire.
Est-ce que les États-Unis pourraient l'accueillir?
Ouais, mais même en sol américain, ça serait quand même assez scandaleux. Mais, tu sais, rappelons-nous du journaliste, là, j'oublie tout le temps son nom, là, qui a été assassiné par l'Arabie Saoudite en Turquie. Je pense.
Ouais.
Tu sais, t'es jamais vraiment safe dans n'importe quel pays, là. Parce que c'est un peu trash que je veux dire là, mais c'est pas difficile d'assassiner quelqu'un.
Jamal Khashoggi.
Ouais, exactement.
C'est comment on assassine les gens, David?
Ben, j'aimerais ne pas aller là aujourd'hui si ça te dérange
mais
pas.
Mais ça, les barrières aussi, c'est un peu triste. Ben, en fait, c'est même pas triste le mot, là. C'est tragique pour le journalisme et autres, mais ils ont explosé depuis la guerre en Afghanistan, mm-hmm. depuis l'Irak, depuis. Il n'y a plus les mêmes paradigmes, là. Mm. Du tout, du tout, du tout. Avant, tu ne touchais pas à des journalistes.
Ouais, maintenant, c'est open season pas mal. Là.
Exact.
Ça chasse pas mal.
Mais c'est ça, à un moment donné, il va falloir qu'il le place quelque part. Là. La France, pourrais-tu l'accueillir?
Peut-être. Moi, je pense qu'il va rester en Ukraine, mais il va essayer d'être low profile. Ça dépend comment ça se termine, tout ça, finalement. Mais je suis d'accord avec toi que Trump va avoir... Pas Trump, mais excuse-moi, beau lapsus. Hein, Poutine va avoir une rancœur envers lui... pour le restant de ses jours.
Oui, puis d'après moi, ça va finir à... Il est tombé en bas des escaliers chez eux. Personne n'a été témoin, mais...
Mais tu sais, ça devient un personnage tellement grand, tellement plus grand que nature, mettons, que s'attaquer à ça une fois que la paix est faite, là, c'est un acte de guerre. Là. Fait que ça va être à penser aussi pour lui.
Oui, on parle d'élection en Pologne. Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté de justesse la présidentielle en Pologne. Qu'est-ce que ça te dit?
Écoute, c'est assez niché de parler de politique polonaise. Là. On va essayer de garder ça
avec
simple.
Avec toi, ça me surprend.
Mais c'est sûr qu'on parlait du Venezuela il y a 2 semaines là, ou la semaine passée.
Mais c'est un bel acte de confiance, Yannick. Il est tout oui, il t'écoute.
Oui, parce qu'il pourrait vraiment dire avec tes affaires un
ça peu va-tu,
niché,
toi?
Parle-moi de golf à place. Non, mais c'est important parce que la Pologne est limitrophe de l'Ukraine. C'est un pays européen qui s'est senti concerné par la guerre en Ukraine en se disant « Est-ce que c'est moi le prochain? » Donc là, dans les dernières années, il y a eu un mouvement local qui disait vraiment on va supporter l'Ukraine, puis on va se rapprocher de l'Union européenne, puis on va essayer de devenir un acteur de l'Union. Peut-être, ben, tu sais, dans l'OTAN aussi, c'est des membres de tout ça. Donc vraiment prendre notre place là-dedans. Là, le premier ministre Donald Tusk, dans le fond, lui, il a une posture très, très libérale à la Justin Trudeau. Peut-être pas à ce niveau-là, mais très... le droit individuel, la protection des minorités. Il y a un aspect plus économique quand même que Justin Trudeau. Là. On peut pas quand même dire qu'il sera jusque-là. Mais il est très dans le pro-européen. Lui, il voit vraiment comme le Kumbaya continental. Par contre, Karol Nawrocki, je sais pas si je le dis correctement, puis je m'excuse à tous ceux qui pourraient être d'origine polonaise, là, je veux pas les insulter. Il est dans le parti droit et justice. Okay? Le système polonais, juste pour le dire, il y a le président puis il y a le premier ministre. Là. C'est un petit peu comme en France, par exemple, ou aux États-Unis. Le président a beaucoup moins de pouvoir, par exemple, que Donald Trump. Parce qu'aux États-Unis, il peut faire des décrets puis c'est très, très exécutif. En Pologne, le pouvoir exécutif est beaucoup plus vers le premier ministre. Donc, c'est vraiment le premier ministre qui run le pays, sauf des aspects diplomatiques. Mais le président a le droit de faire un droit de veto pour bloquer des projets de loi ou des initiatives du gouvernement. Okay? Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Là, mais...
Oui.
Donc là, quand le président Nawrocki est rentré, ben, il dit à Donald Tusk, « Tous tes projets de loi que j'aime pas, voici mon veto. » Ça, c'est fait dans les dernières 24 heures. Donc, il a bloqué beaucoup de projets de loi par rapport beaucoup aux droits individuels puis à la proximité, si on veut, européenne. Donc là, puis le gouvernement de Donald Tusk, le premier ministre, c'est un gouvernement de coalition. Puis ça, on ne connaît pas beaucoup ça au Canada, là, parce que tu sais des fois, il y a deux partis, ben, comme mettons le NPD puis les libéraux. Là, tu sais, il y a une proximité, c'est pas vraiment une coalition. Puis on dit, ouh, c'est nouveau.
Au Québec, on avait la coalition Avenir Québec. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon nous a appris, il y a de ça quelques jours ou quelques semaines, devrais-je dire, que le Parti québécois, c'est un Parti québécois de coalition. Donc, on peut apprendre un gars qui voulait poser des bombes, puis de l'intégrer au parti. Puis maintenant, ben, comme il était à l'extrême gauche, là, maintenant, il est rendu centre-droit. Fait que la coalition du Parti québécois. Je pense qu'on peut dire ça aussi.
Tout est dans le spectre des idées.
Oui.
C'est ça, la diversité, c'est important.
Tout est tricoté.
Ben oui, tout est beau. Fait que si on se ramène à eux, dans le fond, c'est un gouvernement de coalition qui est assez fragile. Ils n'ont pas une méga majorité, puis c'est comme 5 partis qui sont au pouvoir. Puis ouais. Ils se répartissent les rôles de ministre. Mais là, le nouveau président agit par rapport à l'Assemblée nationale, si tu veux, là-bas, là, parce que son parti à lui, Droit et justice, est aussi représenté dans le Parlement polonais pour essayer de renverser le pouvoir, si on veut, du premier ministre Donald Tusk. Tu me suis? Mm-hmm. Donc là, tout ça pour dire que ça va chambouler beaucoup ce qui se passe. Puis c'est un mouvement très Donald Trump, dans le fond, là, parce qu'il est très dans le conservatisme, puis le nationalisme, la Pologne avant tout. Puis tu sais, il est dans cette vibe-là, très protectionniste aussi. Là, c'est notre économie qui va passer avant le reste. Je rejette l'Union européenne. Naroki est quand même assez proche de la question ukrainienne, lui aussi, mais il est beaucoup dans un vibe. Là, gère tes troubles, là, on va essayer de t'aider, mais regarde, c'est pas mon problème, c'est le tien. Donc là, qu'est-ce que ça va donner dans l'Union européenne, dans l'Union du continent, là, pas dans l'organisation politique, mais vraiment comme dans le climat politique, j'ai hâte de voir. Parce que c'est un pays clé, là, la Pologne, par rapport à la guerre en Ukraine. Là. Ça peut pas tomber en déchéance, mettons, puis que le pays se déstructure parce que ça va faire mal.
Exact, exact. Hey, je veux profiter du fait que tu es là pour te parler un peu de politique. On parlait de maladie mentale tantôt avec Audrey. On a reçu des gens qui ont accordé une entrevue dans Le Devoir. Eux, ils ont quelqu'un, un père qui a un fils qui est atteint de schizophrénie. Puis ce jeune schizophrène-là, je dis jeune, mais c'est un gars qui est entre 30 et 40 ans, est un danger pour lui, mais aussi pour sa famille et la société en général. Puis ils font tout, tu sais, pour tenter de le faire incarcérer pour qu'il se fasse soigner, parce que s'il est à l'extérieur puis il prend pas ses médicaments, c'est un gars qui est un véritable danger public. Puis jasais avec Denis par la suite de cet événement-là, puis ils vont probablement en parler dans le retour tantôt, mais jasais que les politiciens, on a peut-être un rôle à jouer en tant que médias quand les politiciens agissent de façon proactive faire certaines annonces par rapport à la société, tu sais, plutôt que de toujours être là quand c'est une réaction à. Puis je donnais un exemple du gars qui s'est pointé avec le sabre à Québec puis qui voulait découper les gens. Très rapidement, Geneviève Guilbeault est arrivée avec Lionel Carman puis on dit « Hey, on va débloquer des fonds, 100 millions de dollars pour que tout le monde ait accès à un psychologue. » Finalement, ça ne s'est pas avéré. Là. Si tu parles avec les gens en théâtre de guerre, ils vont dire « Nous autres, on n'a jamais vu cet argent-là. » Mais on avait couvert cet événement-là en disant « Hey, Geneviève Guilbeault et Lionel Carman, ils annoncent l'argent. » Puis ils réagissent au fait qu'il y a un gars qui tentait de découper des gens puis qui filait pas entre les deux oreilles. Ils ont été réactionnaires. Mm-hmm. Puis ils ont fait le tour du Québec avec cette annonce-là. Est-ce que toi, quand tu étais en politique, tu constatais que quand il y avait des conférences de presse qui étaient proactives, c'est-à-dire on met de l'argent pour prévenir qu'il n'y a pas de problème, versus on est réactif parce que, bon, je sais pas, moi, sur le boulevard Guillaume Couture, tous les tuyaux sont pétés. Là, les journalistes sont en panique puis ils savent que ça va intéresser tout le monde. Y avait-tu une différence de crowd dans la salle quand le policier était proactif versus réactif?
Ben, tu sais, il n'y avait pas tant de crowd civil. Tu sais, tout le temps couvert par les médias puis tu vois pas nécessairement la réaction là, des vraies personnes dans le salon. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est facile d'annoncer de l'argent. Parce que tirer de l'argent, c'est un problème jusqu'à temps qu'il se règle. Là, tout le monde est capable de faire ça, OK? Je te dis pas que dans ce qu'on vient de se dire là, c'est toutes des mauvaises mesures, puis etc. Le point étant, avoir des vrais changements qui font une bonne différence dans ce genre de problème-là, c'est très, très nuancé, complexe. Ça prend de la concertation avec des professionnels qui connaissent pas mal plus ça, là. Puis ça, ben c'est pas sexy, tu comprends?
Ouais.
À moins que tu fasses comme une espèce de grande table nationale où ce que là, tu dis urgence sociale par rapport à tel enjeu, puis là, ça devient public, puis bon, ça, c'est une chose, mais tu sais, ça, là, par exemple, le programme que tu parlais du 100 millions, ben c'est nuancé, tu sais, comment tu mets ça en place, c'est qui y a accès, puis tu sais, je veux dire, il y a quelque chose à réfléchir là-dedans, puis c'est les fonctionnaires qui poussent ça, dans le fond. Fait que le politicien, il dit, moi, là, j'ai parlé avec Éric Girard, là, puis j'ai 100 millions chaque ça dans le feu.
Ou en parce que c'est payant politiquement quand t'es avec ton plaster, là.
Ben oui, c'est ça, parce que tu veux démontrer que t'es dans l'action.
Ouais.
Mais l'action directe, instantanée, dans une situation de crise, comme par exemple la COVID au début, ou même, rappelons-nous, de la CAQ au début, tu sais, quand il y avait les inondations, puis justement, Geneviève Guilbeault, il allait avec ses bottes à douille, là, tu sais, était sur le terrain, puis on dit, ah, ils prennent ça en main.
COVID, combien de masques on a acheté, qu'on a perdu, avec la date d'expiration qu'on n'avait pas checké, avec le fait que c'était pas des bons masques, finalement, ça passait à travers. Tu sais, on est allé rapidement, puis on aurait pu prendre 3-4 heures de plus, qui est aussi rapide, mais pour bien faire les bons de commande. Mais dans ces montants-là aussi, on en discutait. tu sais, Yannick, il dit c'est correct d'avoir l'argent. Finalement, ils l'ont peut-être pas, même pas vu, là, les gens sur le terrain, mais tu l'investis comment? Ça aussi, ouais, c'est important.
C'est là que ça se passe. Tu sais, le diable est détail. Ouais. Fait que là, au-delà de l'annonce puis de l'argent, comment tu la mets en place? Puis ça, c'est pas couvert, c'est pas sexy.
Fait t'sais. Que là, ils en ont parlé dans Le Devoir. Nous, avec Audrey, on a décidé de les recevoir en studio. Puis ils nous ont appris live que leur jeune, ben leur gars qui est atteint de schizophrénie, s'est procuré une arme à feu dimanche.
Ça, c'est rock'n'roll.
Puis là, je leur ai conseillé. C'est rare que je conseille les gens, là, regarde-moi en face. Je leur ai dit, ça, c'est le genre de choses qui devraient se rendre au service policier. Comme quoi, le gars a un casier criminel, c'est un schizophrène, il prend pas ses médicaments, puis il a une arme à feu à la maison.
Y a-tu un permis ou l'a acheté dans la rue, mettons?
Il n'y a pas de permis. Il l'aurait acheté dans la rue, de ce qu'on comprend. Puis là, son père a dit, tu sais, il l'a-tu vraiment fait ou il l'a imaginé qu'il l'a fait l'acheter, tu sais, dans sa tête? Mais on demande pas moins que c'est vraiment inquiétant. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est on a fait des téléphones pour la Coalition Avenir Québec pour avoir des entrevues avec eux autres. On leur a envoyé le segment pour dire « Voici ce qui se passe avec un schizophrène. Vous avez dit que vous ferez quelque chose pour les gens qui sont atteints de maladie mentale. » Ben, c'est le temps. Là. On a eu un cas à Québec là, de Kim Lebel qui a défoncé le crâne de son voisin à coups de pelle. Puis le père de Kim revenait de la centrale de police du parc Victoria pour demander de l'aide pour qu'on vienne interpeller son fils. Puis quand son père et sa mère sont arrivés avec la voiture, David, ils ont vu qu'il était en train de commettre le meurtre. Ben son père, il n'est pas sorti du char. Il est rentré avec son propre char dans son fils pour tasser son fils de là, pour tenter de sauver la victime. C'est tragique, là, mais là, on fait là, puis là, les policiers, on va faire attention, on va bien traiter les gens qui sont atteints de maladie mentale. Tant aussi longtemps que tu ne leur mets pas sous le nez ce genre d'événement-là, ils ne feront rien.
Ben, je suis d'accord, mais en même temps, encore une fois, on revient au même point. Là, tu vas faire une annonce qui dit on va lancer telle initiative, mais... Tu sais, des problèmes sociaux comme ça, je voulais juste faire la nuance par rapport à la crise directe. Tu sais, quand il y a une inondation, tu agis directement, puis à un moment donné, tu as une résolution de crise. Des crises sociales comme celle-là ou la santé mentale, en ce moment, on va se le dire, on est en train de perdre le contrôle dans cette histoire-là, là, à la grandeur du Québec.
Tu y vas à Saint-Roch, là, vous avez des projets immobiliers dans le secteur de Saint-Roch. Là, tu le vois comment Saint-Roch s'est transformé dans les 4-5 dernières années. S'il n'y a pas de l'investissement privé puis de l'investissement public dans ce secteur-là, c'est condamné à s'empirer année après année. Moi, je l'ai vu très laid, Saint-Roch, parce que je suis né dans ce secteur-là. Je l'ai vu très belle aussi, Saint-Roch, quand le maire Lallier a fait du travail. Puis là, ben, depuis le départ du maire Labeaume, on dirait que ça s'accentue les petites problématiques.
Oui, mais c'est un problème justement à grandeur c'est un problème à grandeur de la province. Mm-hmm. Puis ça se règle pas avec une annonce, ça se règle avec un système, un filet social extrêmement extensif, puis ça, man, c'est pas facile à mettre en marche. Là.
J'en doute pas, mon ami, c'est toujours un plaisir, David Chabot. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. T'en vas-tu jouer au golf, là?
Non, j'ai un cours de dégustation de vin ce soir, dans une belle journée, ce qui fait la plus belle journée de l'année, tu sais.
Wow. Moi, chez nous, je m'en vais prendre une Coors Light, je changerai jamais ma vie avec la tienne.
Tu me diras c'est quoi la pastille de ta Coors Light?
Ça doit être très ordinaire comme pastille. J'aime bien ça. Pascal, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
À toi aussi.
On se rejoint, nous autres, à 18h avec le Doc Boucher qui sera là. Denis, ainsi que Véro et Audrey s'en viennent dans les prochaines minutes. Salut tout le monde. Bye bye.